Politiquement Vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Kezel.
Bienvenue dans Politiquement Vôtre, l'émission politique de RCF en Lorraine, réalisée aujourd'hui par Romane Féoqueux. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Dan Codello, qui est coordinateur de la politique transfrontalière des jumelages des affaires européennes et internationales de la ville d'Esch-sur-Alzette. Bonjour Dan Codello.
Bonjour Monsieur Kezel.
Avec vous, nous allons aborder l'actualité, votre actualité et d'une manière générale tout ce qui touche aux relations entre la France et le Luxembourg. Et avec moi, pour vous interroger, comme chaque semaine, Arlette Perjean-Hall, toujours en pleine forme et qui a, comme le veut la tradition, préparé votre portrait.
Bonjour Roger.
Bonjour Arlette.
Vous aviez oublié de me saluer, ça ne va plus du tout.
Bon,
c'est pas grave, je vous pardonne.
Bonjour Arlette.
Allez, je me lance.
Dan est plus poli.
Ah, il est très poli.
Mais c'était pas marqué sur ma feuille, c'est pour ça.
C'est pas grave. Bien, Daniel Codello, ça c'est pour l'état civil. Dan pour les intimes et je crois pour les autres aussi.
Oui.
Vous êtes luxembourgeois.
Oui.
Vous êtes d'origine italienne comme votre nom l'indique et vous résidez à Esch-sur-Alzette dans le quartier des Terres Rouges dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure.
Certainement.
À quelques kilomètres de chez vous, c'est la France, hein, presque à un jet de pierre. Alors le Luxembourg, l'Italie, la France, on comprend que vous soyez profondément européen. Mais pas seulement, car vous êtes aussi viscéralement attaché à votre ville d'Esch-sur-Alzette et bien connu au Grand-Duché, comme ailleurs, pour votre investissement dans les relations et la coopération transfrontalière. Mais faisons un petit retour sur votre passé. Après votre scolarité au lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette, vous suivez des études de sciences politiques et d'histoire à Bonn et à Trèves en Allemagne. Vous exercez durant quelques années des fonctions de rédacteur au ministère du Travail et de l'Emploi au Gros-Duché. Mais très vite, c'est la politique qui vous prend et je dirais presque qui vous absorbe. Votre cœur penche à gauche et c'est donc tout naturellement que vous avez adhéré au LSAP, le Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois. Vous siégerez au conseil municipal d'Esch-sur-Alzette dans la majorité, puis à partir de 2017 en tant qu'indépendant en raison de divergences internes avec le groupe socialiste auquel vous reprochiez des orientations trop en rupture par rapport à la social-démocratie. Mais aujourd'hui pour vous, la politique appartient au passé. La politique à laquelle vous avez consacré 26 ans de votre vie, au point de délaisser vos passions, comme celle d'arbitre de foot, par exemple. Alors, pourquoi ? Pour ouvrir une nouvelle page, un nouvel emploi s'offre à vous, un de ceux qui vous permet de faire de votre passion un métier, dites-vous. En effet, on vous confie d'autres responsabilités, celle de coordinateur de la politique transfrontalière des jumelages des affaires européennes et internationales à la ville d'Esch-sur-Alzette, première ville du Luxembourg à ouvrir ce type de poste et vous en êtes assez fier, à juste titre. Dan Codello, vous êtes de ces personnalités qui marquent. Vous avez gardé de vos origines italiennes la jovialité et la faconde. Vous vous exprimez haut et fort quand le besoin se fait sentir. On vous reconnaît une véritable proximité avec les gens et pour cela, rien de tel que le stade de foot le dimanche, n'est-ce pas ? Passionné et passionnant, comme on va le découvrir. Vous n'êtes pas de ceux qui font les choses à moitié. C'est le cas notamment pour votre ville d'Esch-sur-Alzette à laquelle vous reconnaissez vouer un véritable amour. Nul doute que c'est également le cas pour la coopération transfrontalière qui vous occupe désormais tout entier. Alors Dan Codello, c'est la première fois que nous vous recevons dans Politiquement Vôtre et comme vous avez, c'est sûr, mille et une choses à nous dire, je ne grignoterai pas davantage sur le temps de l'émission et je laisse immédiatement la parole à Roger.
Dan Codello, elle vous connaît bien, Arlette.
Ben, elle a cherché, je ne sais pas loin, mais c'est beau. C'est beau d'entendre un portrait de soi-même, c'est la première fois. Mais vous étiez cherché, oui, vous m'avez...
Elle ne s'est pas trop trompée, enfin moi je
non,
vous connais aussi bien.
Surtout dans les adjectifs, la jovialité, ça reste, oui. J'ai rarement de mauvaise humeur, mais surtout le matin très tôt alors. mais oui, l'arbitrage, j'étais le plus jeune arbitre de football du Luxembourg à l'âge de 13 ans, oui. Donc, non, merci. Merci
parce que ça fait un plaisir.
Ça touche, merci.
On va revenir sur votre parcours, un tout petit peu sur votre parcours. Comment on devient coordinateur de la politique transfrontalière à Esch-sur-Alzette ? C'est le rêve de toute votre vie ou bien c'est les circonstances qu'on fait que...
Le rêve, bon, disons, parce qu'il y avait quand même la volonté politique de créer ce poste, que peut-être moi, je n'ai jamais eu quand j'étais responsable politique. Hein, donc ce poste était toujours intégré dans d'autres services. Si je me rappelle, le service des jumelages, par exemple, était toujours intégré dans le service des sports. Ne me posez pas la question pourquoi, parce qu'on va y répondre, parce que c'était toujours comme ça. Donc c'était toujours sport, archives, jumelage. Puis la coopération transfrontalière, il faut le dire, Le changement politique que vous avez évoqué en 2017, nous avons eu un maire on a le même âge, notre maire et moi-même, et donc et aussi l'adjoint au jumelage à la question transfrontalière ont vu que ça prend de plus en plus d'ampleur. Hein, ils ont vu cette importance que et on va y revenir de du marché de travail transfrontalier qu'on a pour le moment, de créer un bassin de vie commun. Prend une importance vraiment de plus en plus grande, forte. Mmh. Et donc, ils voulaient créer ce poste et ils ont pensé à moi si je ne voulais pas poser ma candidature. J'ai posé ma candidature et ma candidature a donc eu quand même 15 sur 17 votes au conseil municipal. Donc
Et donc, c'est Georges Michaud qui a donné le maire, le bourgmestre de l'Échurazette, qu'on salue d'ailleurs,
qui a
eu cette initiative. Et vous êtes une des premières villes à avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe vraiment spécifiquement du transfrontalier.
Nous sommes, la ville d'Esch est la première ville à avoir créé ce poste, la ville de Luxembourg, à un service des relations internationales, mais compte moins de jumelage que la ville d'Esch, mais ça c'est historiquement, parce que la capitale d'une ville, elle a des liens avec les capitales européennes et avec dans l'association des capitales mondiales. Donc nous avons plus de jumelage, nous avons toujours eu cette tradition de jumelage depuis 1956. Et donc il fallait créer ce poste et cette nouvelle majorité a dit voilà, on va rassembler toutes ces questions. Donc la coopération transfrontalière qui n'est pas moindre, hein, parce que ça prend déjà un certain nombre d'heures par semaine, tout en sachant que la ville d'Esch, dans la personne de M. Knaff, l'adjoint, préside pour le moment le GICT à Zelbelval, on va y revenir. Oui. Deuxièmement, donc, les jumelages, on vient de signer un 13e jumelage dont je suis très fier d'avoir pu achever ce texte avec une ville ukrainienne comme la ville de Metz. C'est très fort symboliquement pour le moment de soutenir les villes ukrainiennes. Donc les jumelages et puis donc toutes ces questions liées à l'Europe et aux affaires internationales. Hier j'ai passé la journée ici à Metz parce qu'il y avait la première réunion du comité de suivi Interreg, nouvelle phase 2021-2027. Donc les fonds européens, tout ça, toutes ces questions.
Donc vous déplacez vraiment beaucoup. On vous remercie d'ailleurs d'être là parce que vous êtes venu spécifiquement depuis Luxembourg pour cette émission. C'est pas très loin, mais il faut quand même réussir à faire le déplacement. Ouais. Tout le monde ne le fait pas forcément. Arlette, vous voulez vous poser une question ?
Oui, une petite question qui peut paraître anecdotique, mais en préparant l'émission, j'ai lu que vous aviez été échevin. Alors ça pour nous, de ce côté de la frontière, ça fait un peu sourire. C'est un peu médiéval comme terme. Moi, je vous imagine avec un grand manteau bordé d'hermine et ça me fait beaucoup rire.
Oui, c'est au Luxembourg. Mais c'est quoi un échevin ? Effectivement, les Français ne savent pas trop ça.
Vous savez que le Luxembourg, depuis des décennies... dans sa législation, s'oriente toujours soit sur la législation française, soit sur la législation belge. En matière de loi communale, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les origines, on s'est orienté vers nos amis belges. Mm-hmm. Et donc un échevin n'est pas moins qu'un adjoint. C'est un adjoint.
Le premier échevin, c'est le premier adjoint.
C'est le premier adjoint. Le premier adjoint au maire. Et le maire. Et c'est pour ça que c'est le maire, c'est le bourgmestre.
C'est le bourgmestre. D'accord.
Donc c'est aussi un terme très médiéval. Je l'ai retrouvé, entre autres, lors de mes études d'histoire. On a dû passer des cours d'histoire médiévale. Donc on a retrouvé ces Bürgermeister, et chef. Et chef en allemand. Mais par exemple, le mot de chef en allemand, ça signifie aussi chef devant un tribunal. Ceux qui assistent le juge, ce sont des échevins dans la terminologie allemande. Mais échevin n'est que rien d'autre qu'adjoint. Sauf que j'ai quand même dû apprendre aussi un adjoint luxembourgeois. Il est responsable de ses dossiers.
Oui,
une répartition bien égale. Chacun a un grand dossier. Moi, à l'époque, j'avais le personnel communal et la réforme administrative qui était vraiment le grand dossier. Et donc, j'avais les jumelages et la coopération transfrontière un peu... C'était pour ce. On doit avoir un ressort aussi moins politisé, disons. Hein, parce que les personnels et réformes administratives, ça prenait énormément du temps. Ça allait de l'embauche jusqu'à l'affaire disciplinaire. J'ai toujours dit, on avait 1300 agents, 1300 humeurs avec la mienne, c'est pas toujours facile à gérer.
On va parler. Donc vous n'avez pas un grand chapeau. Vous n'aviez pas, quand vous étiez jeune, un grand chapeau avec un.
Non. Parfois la grosse tête, mais jamais un grand chapeau.
On va parler de votre belle ville d'Esch-sur-Alzette. Elle se transforme complètement. Comment elle se porte aujourd'hui ? 60 000 habitants ?
On est encore loin des 60. On est à 37 000 habitants, mais vous parlez donc de l'évolution des friches industrielles qui sont en cours d'être réhabilitées. Et là, nous allons donc poursuivre une évolution démographique jusqu'à 55 000 habitants. Pour 2045. Donc une évolution démographique qui est liée à cette question très importante, et j'espère qu'on va la développer aussi de manière transfrontalière, qui est celle de la réhabilitation des friches industrielles. qui me paraît...
Mais ça, c'est un dossier que vous suivez vraiment de très, très près.
Ben, j'ai eu, je viens de le dire à un de nos adjoints actuels, c'est quand même beau, j'ai été assermenté en tant que conseiller en 2002, et donc là, le projet Belval était dans... C'était quelque chose de nouveau. Et donc maintenant, après 20 ans, tu suis en tant que fonctionnaire, tu vois quand même les premiers résultats des décisions que tu as quand même prises
donc,
au conseil.
Pour clarifier auprès de nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tous, mais Belval, donc, ça, c'était une ancienne friche industrielle qui a été complètement transformée. Oui. Il y a d'autres friches industrielles encore à travailler ?
Oui, donc en fait, ce qui est un peu... étant donné que Belval, c'est... tout s'est focusé sur Belval, mais donc à l'époque, l'État et Arbed, maintenant ArcelorMittal, Arbed ArcelorUnior, vous connaissez l'évolution, ont créé une société de gestion, Agora, 50% de capital d'ArcelorMittal, 50% de l'État, mais c'est en fait pour la réhabilitation de 11 ou 12 friches au Luxembourg.
C'est ça.
Hein? Donc, naturellement, Belval a été choisi comme première à être reconvertie. Et donc,
Il reste d'autres.
Il reste d'autres, mais naturellement, une deuxième qui est transfrontalière, donc, qu'on appelle la friche des Terres Rouges, Routelands. Mais là, ArcelorMittal a choisi une autre option. Ils ont vendu le terrain et c'est un promoteur. Qui travaille énormément dessus.
Et il est tout près d'Aix.
C'est là le quartier des Terres Rouges où j'ai habité et donc qui a une petite la fin est du côté français vers Audaltige. Une troisième friche Aix-Chifflange qui est également en pleine réhabilitation qui n'était pas prévue aussi vite. On s'était toujours dit ici on réussit Belval, puis ce sont d'autres friches dans le pays qui vont être réhabilitées. Non, mais ArcelorMittal a pris la décision, dans le cadre d'Agora, de reconvertir également Aix-Chifflange, qui nous donnera 10 000 habitants supplémentaires.
Oui, donc ça a une progression énorme. Oui. Arlette, voulez-vous poser une question sur les coopérations avec les communes françaises ?
Oui, parce que c'est quand même votre grand sujet. Hein. Alors, on voudrait savoir un peu quels sont les axes de coopération avec les communes françaises. Oui. Dans le cadre notamment du GECT. D'abord, qu'est-ce que c'est que le GECT ?
Oui, ça, parce que j'imagine que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, en 2007, le Parlement européen a décidé de créer donc, ce groupement européen des coopérations territoriales qui, en fait, et ça je veux le dire, et parce qu'on ne le souligne pas assez souvent, qu'un texte qui vient, soi-disant, de Bruxelles, facilite les relations transfrontalières. Parce que les relations transfrontalières étaient longuement définies par l'accord de Karlsruhe qui prévoyait que ce sont les États qui déterminent la politique transfrontalière. Maintenant, c'est quand même dans un groupement européen de coopération territoriale, les collectivités locales peuvent également être membres. Bon, ce sont les deux États, l'État français et l'État luxembourgeois.
Ils sont représentés d'ailleurs.
Ils sont représentés, ils nous ont même fait le coup de le créer sans nous avertir. Hein. Je signale, nous avons l'autonomie communale. Et à l'époque, j'étais fou furieux et j'ai tout de suite écrit une question au collège des bourgmestres et chevins de la ville d'Aix-sur-Azette pour savoir s'ils étaient au courant. Et donc, bon, on remercie quand même les deux ministres, c'était à l'époque Mercier, le ministre aux collectivités territoriales et Halsdorf au Luxembourg, d'avoir quand même pu
mettre en place cette
structure qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine.
Il y a des communes françaises, il y a des françaises, luxembourgeoises, belges, non hein.
Non, pas belges. Donc c'est le territoire du côté français de la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette, la CCPHV, donc avec ses 8 communes. Et du côté luxembourgeois, on a 4 communes pour le moment, mais nous sommes en pleine procédure d'adhésion d'une 5e commune, Rumelange, qui est le pendant d'Ottange. Je ne me rappelle plus pourquoi on n'a pas pris Rumelange à l'époque. Mais donc, nous sommes en pleine adhésion de Rumelange. Donc ça fera 5 villes et communes luxembourgeoises avec 8 communes françaises qui travaillent sur des questions très concrètes. Parce que si vous me demandez les projets avec les villes françaises, il faut quand même faire la part des choses donc, de proximité avec la CCPHVA.
Oui, là, c'est un travail de proximité.
Et puis, donc, le réseau de villes Tonicité, dont nous faisons partie avec Luxembourg-Ville, Aix-sur-Alzette, Mestienville, Longwy et Arlan. Et en plus, nous entretenons de très bonnes relations bilatérales avec la ville de Metz et avec la ville de Thionville. Surtout, je ne vous cache pas que les communes se posent aussi la question sur les questions énergétiques, hein, la transition énergétique, les questions de climat, les questions de droits de l'homme. La ville de Metz, comme la ville d'Aix-sur-Alzette, fait partie du réseau des villes contre le racisme, sous l'égide de l'UNESCO. Et là, dorénavant, je viens d'avoir une réunion il y a 2 semaines avec ma collègue et avec Madame Dossan Weisman, qui est adjointe aux relations internationales ici à Metz. Et on va travailler de plus étroitement Dans le futur, dans ces questions. Donc, et peut-être, j'ai également signalé que toutes les deux villes ont un jumelage en Ukraine. On peut même également donc faire partie de cette solidarité européenne.
Une coopération étroite. Voilà. Oui. Dan Codello, on va parler du Luxembourg de manière un peu plus générale. Il y a quelque chose qui frappe évidemment toujours les Français quand on regarde le Luxembourg. Comprenez, il y a 40 ans pour un petit pays un peu agricole, c'est la croissance luxembourgeoise extrêmement forte et la création d'emplois qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Ou est-ce que ça va continuer tout le temps ? On a reçu la semaine, Jean-Jacques Rometz, vous étiez d'ailleurs présent il y a 2 semaines, qui nous disait on est rentré dans cette logique-là, c'est difficile d'en sortir. Voilà, mais il faut gérer ça, quoi.
Oui, je ne veux pas dire que c'est un cercle vicieux, mais vous avez même vu que même la pandémie n'a pas pu stopper la croissance du Luxembourg. Hein, si vous avez vu
que le
l'immobilier a connu une croissance de 11% pendant une pandémie. Donc, qu'est-ce qui va arrêter cette croissance ? Bon, c'est une. Nous allons, comme il y a 2-3 semaines avec Jean-Jacques Rometz, heureusement que nous abordons cette question, parce que j'ai également peur que cette question ne sera pas abordée lors des campagnes électorales à venir au Luxembourg.
Alors c'est ça, c'est la vraie question. Ça ne vient pas dans...
Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun parti qui s'est prononcé. La dernière fois, lors des dernières élections législatives, il y a une tête de liste qui a timidement voulu poser la question de la croissance, qui a été... je ne veux pas dire huée, mais comment poser cette question ? Parce qu'elle est quand même... On est dans un cercle vicieux. Le Luxembourg a besoin de cette croissance.
Oui, c'est, voilà,
et,
c'est ça.
Alors, il y a... En plus, la grande région a besoin de la croissance luxembourgeoise.
Aussi, oui. Donc, alors, il y a un débat au Luxembourg sur... le Luxembourg, c'est à peu près 660 000 habitants actuellement. Oui. La moitié sont luxembourgeois, l'autre moitié ne sont pas luxembourgeois. Et pourtant, ils sont très bien intégrés. Et certains disent qu'on peut aller jusqu'à 1 million. Vous pensez que c'est possible qu'on puisse faire face...
Je crois qu'on est sur cette voie. À l'époque, quand Jean-Claude Juncker... faisait un peu peur d'un État de 700 000 habitants, on est presque à 700 000 habitants. Et là, je vois pas comment on peut freiner cette dynamique, parce qu'on est dans cette dynamique. Sauf, et ça c'est une autre question, qui parle croissance, veut également dire plus de résidents. Alors on est intimement lié à la grande question du logement.
Alors justement, on parle de croissance économique, croissance démographique. Bien évidemment, se pose la question du logement au Grand Duché. Alors, vous pensez qu'il y en a assez ?
Non, il n'y a certainement pas assez, et surtout pas assez abordable.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que les gens qui ont peu de moyens...
Honnêtement, il ne faut pas être pauvre. Qu'est-ce qu'on définit par classe moyenne ? Les classes moyennes, c'est quand même ceux qui, dans une société, normalement... soutiennent cette société en général, donc par leur bon salaire, par les contributions qu'ils payent à l'État. Et donc, ça devient quand même assez critique si cette classe moyenne ne trouve plus de logement abordable.
Oui.
Et donc là, il faut se poser la question. Donc, nous, en tant que ville, les villes sont concernées, mais également le gouvernement. Je tiens quand même à rappeler que même Jean-Claude Juncker a dit qu'au niveau de logement... il n'a pas su trouver les solutions miracles. Peut-être qu'il n'y a pas des solutions miracles, mais peut-être qu'il y a des solutions. Je ne sais pas. Nous, en tant que ville, nous avons toujours assumé notre rôle de ville sociale parce que nous avons...
Oui, parce que vous avez pris pas mal d'initiatives pour éviter justement qu'il n'y ait vraiment plus que les riches qui puissent s'installer.
Ah oui, non, on voulait toujours une mixité sociale.
Mmh. Mais une mixité sociale.
On ne l'a pas dans tous les quartiers. Ça ne se peut pas. Ici à Metz, vous avez aussi des quartiers
sûr.
Que...
Oui.
Mais par exemple, nous étions toujours, depuis les années... 60-70, nous avons toujours eu des logements sociaux qui appartenaient à la ville. Nous avons un parc de logements sociaux. Nous étions une des premières villes avec la ville de Luxembourg. Maintenant, il y en a d'autres qui ont suivi, du Lange, du Ferdange, mais c'était toujours une très grande importance a été consacrée à accueillir des logements sociaux. Je me rappelle pourquoi à l'époque, quand on allait au bain, à la piscine, ça s'appelait les bains municipaux. À l'époque, on avait des logements sociaux qui n'avaient pas de douche ni de salle de bain. Donc, les gens allaient prendre leur douche aux bains municipaux. Donc, on est loin de là. Mais nous prenons notre responsabilité. Seulement pour vous dire, on vient de parler de la reconversion de la friche Terre Rouge. 30% du logement sera du logement abordable. 30%, c'est quand même pas rien.
Pas rien.
Donc, il faut cette mixité sociale. On ne peut pas toujours l'avoir dans tous les quartiers, ça c'est clair. On a des quartiers qui, historiquement, ont évolué parce que ce sont des belles maisons de maîtres. Il faut garder ça aussi. Mm-hmm. Parce que pour avoir quand même un pouvoir d'achat, pour avoir une mixité, il faut de tout. Sinon, on n'a plus de mixité.
Bien sûr.
Voilà, c'était ça.
Alors,
mes querelles aussi au sein du parti. Voilà.
Ah oui, oui, parce que c'est compliqué. Vous avez, quand on va à Aix-sur-Alzette, on est quand même frappé par le fait que, et dans d'autres communes aussi, mais Aix-sur-Alzette, c'est très net, ça construit sans arrêt. Ça construit beaucoup.
Vous croyez ?
C'est
très intéressant d'avoir une vue de l'extérieur. Nous avons beaucoup de chantiers. Nous faisons beaucoup.
Là, nous sommes... Il y a quand même des quartiers qui se rénovent complètement. Enfin, on voit apparaître quand même beaucoup de logements. Non, c'est une impression.
Non. Bah, nous avons de nouveaux.
Plus qu'à Villerue, à Audentif, pour être clair.
Ça se peut, oui. Oui, certainement. Donc, nous avons donc un grand projet qui va se terminer. Ça, c'était la création d'un nouveau quartier qui s'appelle les Nonnewiesen, donc les champs des nonnes. Donc, apparemment, il y avait des nonnes jadis. Donc, les Nonnewiesen, ça serait un quartier. Bah, il sera fini dans les 2 ans à venir. Donc, ça, c'était la création d'un nouveau quartier près de Belleval. Mmh. Puis, on voit naturellement le chantier de Belleval. On oublie toujours, Belleval est réalisé à 90% uniquement. Hein. Donc, il ne faut pas uniquement regarder le bâtiment de l'université, la rocale, mais donc à 90%. Et donc, c'est pour ça qu'on voit. Et puis, dans le centre-ville, nous allons maintenant lancer la rénovation de la zone piétonne. Après, qui a été elle est devenue zone piétonne en 93.
Oui, mais tu as aussi beaucoup l'accent sur le commerce.
Nous travaillons sur la question du développement économique et des centres-villes. Nous allons travailler très étroitement avec la ville de Metz, qui a également des problèmes dans la rue Serpenoise, nous, dans l'introduit de la rue de l'Alzette. Vous connaissez la question des loyers. Nous venons d'adopter le conseil municipal mien, d'adapter aussi une taxe comme la ville de Metz pour les propriétaires qui laissent pendant une certaine...
Oui, vous avez introduit ça aussi.
Nous avons introduit dans le même sens, mais nous avons aussi introduit une prime. Il ne faut pas uniquement punir, mais être aussi une prime pour de nouveaux magasins. Mais là, on va étroitement travailler avec la ville de Metz parce qu'on connaît les problèmes des centres-villes. Thionville, qui a eu une renaissance, par exemple. On était il y a 3 semaines, on était au centre-ville. Mais là, il faut travailler ensemble, surtout Thionville, 44 000 habitants. C'est la même taille.
Donc, il n'y a pas de concurrence. Il y a une espèce de coopération sur ce sujet-là.
Non. Tous ces sujets sont sous le sigle de la coopération.
Anne Codillo, on va faire quelque chose de très difficile pour vous. On va faire une pause.
Très bien.
Parce qu'il y a toujours une pause musicale dans notre émission. Voilà. Et on se retrouve dans 3 minutes.
Très bien.
Politiquement vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Kezel.
Retour dans le studio de Politiquement Outre avec Dan Codello, qui est responsable de la coopération transfrontalière sur tous ses aspects et international aussi dans sa bonne ville d'Esch-sur-Alzette. Et on va continuer avec lui de débattre du Luxembourg et de la France avec une première question d'Arlette Perjean.
Oui, on va rester dans la continuité de la question précédente concernant le logement. On parlait des communes du Luxembourg, du Grand-Duché qui ont peut-être une pénurie de logements. Est-ce qu'on peut penser que si on regarde de l'autre côté de la frontière, on voit aussi des Luxembourgeois qui viennent s'installer en France ou en Belgique ?
Ah bah oui, et en Allemagne, surtout en Allemagne. Il y en a beaucoup qui vont de l'autre côté vers l'Allemagne.
Très naturellement.
Je connais même
Mais du côté d'Esch, on est quand même plus francophone, donc on va quand même plutôt du côté français.
Hein. Ouais. Donc, il y a la proximité. Hein. Mais pour vous dire, il y a le frère d'une ancienne collègue de travail, il est même devenu maire de sa petite commune en Allemagne.
D'accord.
En tant que luxembourgeois. Mmh. Donc, il y a cette.
Il a la maîtrise de la langue joue aussi, hein, que vous soyez trilingue joue beaucoup.
Et il y a ce phénomène, mais qui engendre également, donc. Que le coût de l'immobilier du côté français augmente également.
Aussi.
D'un côté, par le frontalier qui revient avec un salaire
bien sûr.
Luxembourgeois, donc on connaît dans la zone, et qui fait quand même qu'on connaît également le fait d'une migration interne en France. Hein, les gens qui ne travaillent pas au Luxembourg migrent vers la Meuse, migrent vers les Vosges, où les loyers ou les moins chers. Hein. Donc on connaît la même chose dans la région parisienne. Hein. Celui qui travaille à Paris ne peut plus vivre à Paris. Et puis il ne peut pas aller dans les 92, hein, donc il va plus loin. Est-ce que c'est bien ? Ben, ça engendre à nouveau la question de la mobilité, mais de l'immobilité le matin et le soir. Hein. Donc, et là, on est toujours. Je crois que nous avons fait une faute gravissime, c'était de négliger le transport en commun transfrontalier.
Trop longtemps.
Et encore maintenant, on ne fait que réagir au lieu d'agir. On sait que le nombre de frontaliers augmente. C'est une réalité. Donc pourquoi ne pas se mettre à table les SNCF, les SNCFL, et puis vraiment élaborer un schéma transfrontalier pour le travailleur frontalier, mais également le week-end ou pour.
Alors il y a quand même de grosses opérations qui vont être menées sur le train entre Metz et Luxembourg avec notamment des.
Enfin, ça a été signé en 2018.
Oui, c'est vrai que c'est très lent. Je reviens sur les communes frontalières françaises, pas tellement du côté de Thionville, mais du côté surtout de Villerue-Longueville. Celle-là effectivement souffre d'une difficulté, c'est que le Luxembourg crée beaucoup d'emplois et c'est bien, mais elle n'arrive pas toujours à suivre en matière d'investissement parce que l'État français les aide peut-être pas assez non plus, et parce qu'effectivement ça fait monter le prix des loyers, ce qui enrichit à la fois le territoire mais en même temps appauvrit un certain nombre de gens. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler ça un peu ensemble, français et luxembourgeois, cette question-là ?
Oui, mais alors à différents niveaux, c'est les gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités. Je ne parle pas uniquement de fiscalité, hein. Pas uniquement loin de là, mais il faut une cohérence dans l'aménagement du territoire.
Oui.
Il faut se rendre compte, si on parle d'aménagement du territoire dans une zone transfrontalière européenne, il faut quand même rappeler que 40% d'Européens vivent dans une zone transfrontalière en Europe. 40%, c'est pas rien. Et donc, il faut se rendre compte que c'est une agglomération transfrontalière. Et donc, là, je me réjouis de.
Le Conseil économique et social luxembourgeois a d'ailleurs fait un rapport sur cette question-là, qui a été présenté par Vincent Hein,
il n'y a pas longtemps. Très intéressant. Et je me réjouis d'une réponse positive du ministère de l'aménagement du territoire, parce que au Luxembourg, les communes ont été demandées de donner un avis sur le nouveau plan de directeur du schéma de l'aménagement du territoire luxembourgeois. Il y a un chapitre, le chapitre 3, sur l'évolution transfrontalière. Donc j'ai demandé aux responsables du ministère que nous puissions donner également aussi alors un avis transfrontalier.
Oui,
et c'est donc là le ministre.
D'accord, donc là ça avance un peu.
Ça avance.
Meilleure prise en compte.
Le ministre Tourmes va accueillir le GICT AZ de Laval, le pôle métropolitain frontalier et le ProSud, donc les 11 communes du sud de Luxembourg. Il va spécialement organiser une réunion de travail sur ce chapitre transfrontalier dans le schéma de l'aménagement territorial.
Ça, c'est important.
Donc on avance à petits pas, mais on avance.
C'est des choses qu'on a aussi compliquées.
Parce que si on parle de. Seulement pour revenir, il n'y a pas que les États qui veulent. Mais les collectivités territoriales et locales veulent prendre leurs responsabilités. Du côté français, la ville de Metz veut être intégrée plus dans les questions lors de conférences intergouvernementales, mais nous connaissons et subissons que les conséquences et les conclusions. Donc parfois, il faut quand même écouter les ceux qui sont proches sur le terrain. Bon, je sais que le préfet de Moselle a institué un comité donc, du côté français. J'ai pu participer à une réunion à Thionville. Donc on avance sur ces questions et le transfrontalier restera toujours une politique de longue haleine et de petits pas.
Avant qu'on aille plus loin, il y a un débat qui vient de temps en temps en France, vous le connaissez, c'est le débat sur la rétrocession automatique. Vous connaissez ce débat-là qui est porté notamment par l'ancien maire de Metz, que nous saluons au passage aussi. Mais, est-ce que vous pensez de ça ? L'idée c'est que, vous savez aussi bien que moi que les frontaliers payent leurs impôts au Luxembourg, comme tout le monde, on paye ses impôts là où on travaille. Et il y a quelques élus qui ne sont pas majoritaires qui souhaitent qu'une partie de ces impôts soient reversés automatiquement aux communes françaises, comme ça se passe avec la Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sont plutôt d'anciens élus qui partagent cette idée.
Plutôt d'anciens élus.
Certains de ces activistes se réfèrent toujours à l'accord entre le Luxembourg et la Belgique.
La Belgique. Parce que ça se passe comme ça en Belgique. Par exemple, Arlon touche une certaine somme en fonction du nombre de frontaliers qui habitent
Les communes frontalières. Bon, à ces gens-là, je dis pourquoi le gouvernement français n'a jamais entamé une telle discussion avec le gouvernement luxembourgeois.
C'est vrai.
Ça, c'est la première des choses. Parce que ce n'est pas au niveau des communes qu'on peut régler cette question. Je l'ai toujours dit quand j'étais élu au sein du GECT. Ce n'est pas au GECT. On n'a pas cette compétence. Hier, la nouvelle convention sur le télétravail a été signée entre le ministre Le Maire et Mme Backes. Pourquoi ne pas, une fois entamé entre les deux, cette question ? Deuxièmement, la situation financière des communes françaises, elle n'est pas très bonne. Certaines communes. Ça ne dépend pas uniquement de leur proximité avec le Luxembourg. Il faut peut-être mettre... Si on veut discuter de ça, de cette rétrocession fiscale, mettons tout.
Il faut tout mettre sur la table.
Mettons tout sur la table. Donc là aussi, il faut poser la question de la gestion de ces communes antérieures. Deuxièmement, l'État français n'a pas toujours épargné les communes françaises
Les soutient pas beaucoup. Discutablement. Le problème est beaucoup du côté de la France.
On peut aussi discuter si l'État luxembourgeois soutient assez les communes luxembourgeoises. L'impôt foncier, c'est infime pour les recettes des communes. Donc, mettons tout sur table et jusqu'à maintenant, on n'avance que... on ne fait pas qu'avancer, mais je lis que des slogans. On se réfère sur le territoire du Grand Genève. Premièrement, là, on a affaire avec la France, avec un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'est déjà une autre situation. Est-ce qu'on peut comparer la situation avec le Grand Genève ? Si j'ai bien compris Vincent Hein, on ne peut pas trop comparer à 100% la situation. Mais moi, je me pose toujours la question, pourquoi les deux gouvernements n'ont jamais mis à table cette discussion ? Ils peuvent discuter ça pas publiquement, c'est aux États. Et si les États ne viennent pas à cette question, ce n'est certainement pas aux communes. Et c'est à nous donc de résoudre le problème en améliorant le vivre ensemble par des projets concrets qu'on peut financer ensemble.
Nous sommes avec Dan Codelou, responsable des questions internationales à la ville d'Eschradzet. Et Arlette, voulez-vous poser une nouvelle question ?
Oui, une question sur la Lorraine, parce que vous connaissez bien aussi la Lorraine.
J'aime bien Yvan, oui.
Oui, il y est tout le temps.
Alors, est-ce que vous l'avez vu se transformer ? Est-ce que vous la voyez se transformer ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu réussir la reconversion aussi bien qu'au Grand-Duché ? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ?
Bon, d'abord, la Lorraine, c'est une très belle région. Parce qu'on a peut-être... je viens d'une région donc anciennement industrielle.
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'on a quand même déjà ce passé commun, donc une partie de la Lorraine. Et puis, vous avez de très belles villes comme Metz et Nancy, avec un patrimoine...
très riche, absolument.
Très riche, de très bons restaurants, parce que la gastronomie, ça fait partie
ça
du tourisme.
Ça ne gâte rien.
Ça, voilà. Vous avez même de bons vins en Moselle. Et puis,
ça vient tout doucement.
Et puis la Mirabelle dans tous ses états.
À consommer avec modération.
Une après l'autre. Donc la Lorraine. Et j'ai vu la transformation. J'ai vu. Vous avez certainement donc, quelque chose en commun, Robert Schumann. J'étais la première fois, il y a 2 ou 3 ans, j'étais jamais assis chez elle. Ça m'a ému de voir quand même ce grand personnage qui est né à Luxembourg, qui part après être ministre des Affaires étrangères français, qui vient de notre région. Ça, ça rend fier quand on est attaché aux valeurs européennes. C'est peut-être sentimental, mais l'Europe, c'est aussi des sentiments.
Donc, vous la voyez se transformer quand même, la Lorraine. Oui, elle n'est plus celle d'il y a 15 ans, 20 ans.
Oui, je vois quand même une évolution positive, surtout aussi par cette coopération transfrontalière qui s'est nouée. Mais je regrette une chose. Au lieu d'avoir admiré l'évolution de Belleval, j'aurais bien aimé que les responsables politiques auraient dit, voilà, gouvernement français, région Grand Est, venez, mettons-nous à table, nous avons... Parce que là, l'avantage que vous avez... Nous, on n'a que des friches industrielles. Mais vous avez des friches militaires. Vous avez des friches hospitalières. Donc, il faudrait... moi, je dirais, il faudrait un grand programme par région où les élus locaux, les écus... les départements, la région, l'État, se mettent à table pour discuter. Je conçois qu'il est trois fois plus facile au Luxembourg parce qu'on n'a que le gouvernement, les communes.
Oui, c'est vrai.
Michel... Parce que le millefeuille administratif... Ne résout pas de problème. Je viens d'écrire un mémoire sur la question transfrontalière et je me réfère à la première phase de décentralisation de Gaston Defferre. Il faudrait, mon humble opinion sur la politique française, il faudrait une deuxième phase de décentralisation. Je ne vais pas dire quel niveau qu'il faut supprimer ou peut-être réformer, mais trop. Comment dire, en allemand, on dit trop de cuisiniers gâchent le plat. Et souvent, on a le problème que nous, au Luxembourg, alors, c'est pas la compétence de la CCPHV, c'est pas la compétence de la région, c'est pas la compétence de la... Non, il faudrait... Si vraiment la Lorraine, elle veut vraiment
s'attacher... clarifier ça.
Clarifier également, et puis la création d'emplois qui s'en suivent, même sur votre propre territoire. Il faut une grande... Il faut les assises des friches. Avec tous les acteurs et avec des acteurs privés. Il ne faut pas quand même sous-estimer l'investissement privé à Belleval.
Ce qui est bien avec vous, Dan Colello, c'est que vous répondez aux questions avant même qu'on vous les pose. on voulait poser la question. Je voulais vous poser la question autour de quand on pourrait coopérer. Voilà un bel exemple. Je crois d'ailleurs que Michel Wurth, l'ancien président de la Chambre de commerce, est très branché là-dessus.
Michel Wurth, je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais donc adjoint. Donc il s'intéresse de tout près maintenant de la reconversion des friches. C'était les bébés d'Arbette. L'ArcelorUsinor, maintenant, ce sont...
Parce qu'il a des friches en France. Il a d'ailleurs écrit une lettre...
ArcelorMittal a des friches... J'étais en Pologne, pour en discuter.
Et donc, il a d'ailleurs écrit au président de la République, il ne lui a pas répondu. Et là, il faut vous dire qu'il n'était pas très content, quand même.
J'ignorais ça. Donc, c'est au président de la République. Peut-être il écoute...
C'est à l'État français de dire...
De la radio. Mais surtout pour cette région et pour le Nord. Regardez la région de Lille, qui a des friches énormes... Donc, il faudrait certainement entamer... mais pourquoi ne pas le demander en tant que, je ne sais pas, maire de Metz ou président de département, président de région, qui connaissent quand même le transfrontalier
Les élus sont peut-être parfois un peu trop timides.
L'ancien maire de Jean-Marie Roche, j'ai lu ses mémoires. Déjà, il disait en 95, il disait, de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Il faut suivre ce bel
Jean-Marie Roche disait que le Luxembourg était le soleil de la Lorraine.
Il s'intéressait, il avait cette vision. Uniquement admirer par après. Maintenant,
bien
tout
sûr.
Le monde me dit, vous, avec votre Belleval. Non, il ne faut pas admirer. Faites la même chose. Il faut les acteurs.
Pierre Cuny, il s'investit quand même pas mal à Thionville. François Grandi ne devrait pas faire un peu plus dans l'investissement? Non, pas qu'il n'est pas du tout anti-luxembourgeois, au contraire, est-ce qu'il ne devrait pas prendre un peu plus, briser un peu l'armure et travailler un peu plus en profondeur?
Ce n'est pas à moi de... Oui, c'est pas le conseil de François Grandi. On a de très bonnes... Nos deux maires se sont rencontrés ici à Metz pendant toute une journée. On travaille en salle de tonicité.
Oui, il est préoccupé.
J'imagine que dorénavant, on puisse même élaborer des stratégies communes pour soumettre quelques textes aux prochaines conférences intergouvernementales.
Oui,
en tant que réseau de villes, ou bilatéralement, ou trilatéralement, qui en ville Metz, Esch-sur-Alzette, dire voilà, mais mettez à l'ordre du jour au moins la discussion sur la question de l'évolution des friches en Lorraine.
On va revenir à Esch-sur-Alzette, si vous voulez bien, avec une question là.
Oui, bien sûr, avec la culture.
Ah oui.
Ça vous intéresse beaucoup. Vous dites que c'est un vecteur
d'intégration.
D'intégration, et c'est très vrai. Ouais. Alors, Esch, bien sûr, capitale européenne de la culture pendant toute cette année 2022. Ouais. Vous avez suivi tout ça très très près.
On n'avait pas le temps. Je dois l'avouer, j'étais qu'à trois vernissages jusqu'à maintenant.
Alors, quel est, à votre sens, quel est le premier bilan Quel premier bilan est-ce qu'on pourrait tirer? Là, on est au fin novembre,
oui.
Mi-novembre.
Oui, donc ça va se terminer le 22 décembre.
Voilà.
Parce qu'on a commencé le 22 février, le 22-02-22. Mmh. Ça se terminera le... Bon, c'est... premièrement, donc, d'après le... une année européenne de la culture ne se terminera plus. Donc, parce que la Commission européenne impose, et à juste titre, la durabilité.
Ce oui, il ne faut pas que ce soit juste un coup non. comme ça.
Donc, et surtout, et c'est ça la question, tirer quel bilan? Est-ce qu'on va un bilan... Est-ce que je vais vous dire maintenant un chiffre, combien de gens sont venus au vernissage ou aux expositions? Ça, c'est un bilan qui va être présenté. Mm-hmm. Mais c'est l'autre bilan, il est trois fois plus intéressant. Qu'est-ce que la ville d'Eschterhazette a investi et va investir? Je reviens d'une conférence sur la culture durable à Lille, où il y avait 55 villes européennes qui ont discuté sur la ville durable. Et ma collègue de la ville de Glasgow, en Écosse, qui était capitale européenne de la culture, est venue me voir et elle m'a dit « Maintenant, vous êtes sur la carte européenne, mais il faut y rester. »
Voilà.
Il faut y rester. Mmh. Et là, nous avons, depuis le début, nous avons pris exemple de notre ville jumelée de Lille, qui était capitale européenne de la culture en 2004 et qui était une des plus réussies selon les avis objectifs de la Commission européenne. Et la ville de Lille a tout de suite pris la décision de créer une association qui gère l'héritage. C'est de Lille 3000 qui a... cette année à nouveau, pendant le, je crois que c'était de mars jusqu'en octobre, a fait de Lille des spectacles, de vernissage. Et donc c'est tous les deux ou trois ans que cette... Et ils l'ont nommé 3000 parce qu'ils ont dit, si on le nomme Lille 2030, en 2030 on doit changer
bien sûr.
À nouveau.
Oui.
Et donc nous avons pris la même décision. Nous avons créé une ASBL qui s'appelle Fresh, qui va gérer l'héritage de projets. Il y a des projets d'associations échoises qui veulent être durables. Par exemple, moi, je suis moi-même porteur d'un projet, d'un ensemble européen de mandolinistes et de guitaristes. Des jeunes, la semaine dernière, on avait notre dernier concert. C'était 42 jeunes de 13 nationalités différentes, sous la direction d'un dirigeant espagnol qui ont fait trois concerts mémorables. Et on veut que ce projet reste. Mais on a également investi dans trois nouveaux établissements culturels. Nous avons une résidence d'artistes, notre premier hôpital de la ville.
Vous travaillez dans la durée.
On travaille dans la durée. Donc un bilan, c'est très difficile. Nous aurons le bilan des chiffres à la fin de l'année, ce qui est un aspect. Mais la durabilité, et puis la durabilité transfrontalière, la création de l'Arche.
Alors j'allais vous en parler,
l'Arche. L'Arche de rue. Oui. Hein, donc c'est quand même pour nos collègues français qui étaient tout de suite partants pour être capitale européenne de la culture avec nous. Et déjà le signe européen d'avoir une candidature transfrontalière, c'est pas toujours le cas. Mais l'Arche, seulement pour vous dire un exemple très concret de politique transfrontalière, le 19 novembre, donc samedi en 8, la ville d'Esch-sur-Alzette va remettre son mérite culturel à quatre associations échoises à l'Arche à Villerue. Donc, pour montrer, voilà, nous sommes dans ce bassin de vie commun et pas uniquement dans ce marché de,
voilà, c'est important,
de travail.
Bien sûr. Au moment où il y a d'ailleurs en ce moment le festival,
et le festival italien,
du film italien à Villerue qui est fréquenté par pas mal de luxembourgeois. Il va être, on est quasiment à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, il y a la tradition de la question d'Arlette, la question qui tue. Attention,
ah bon.
Dan, oui, attention.
Je suis prêt à tout.
Comme c'est la première fois que vous venez, je vais être extrêmement gentille.
Ah,
avec
oui.
vous. Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens.
Oui.
Et vous avez rencontré notamment Jacques Delors.
Non,
une erreur.
C'est une erreur du journaliste.
Ah,
je parlais de Pierre Mauroy. C'était pas Jacques Delors, c'était Pierre Mauroy.
D'accord.
Vous avez lu l'article.
Mais bien sûr.
Et c'était pas Jacques Delors. J'aurais bien voulu
Alors,
rencontrer.
Alors parlez-nous de Pierre Mauroy.
Ah ben ça c'est oui.
Pourquoi vous a-t-il frappé à ce point?
Bon, déjà, le physique.
Bien sûr.
C'est un homme, je le vois. C'était mon premier déplacement en mai 2002 en tant que conseiller municipal dans la ville jumelée de Lille. Donc, en fait, je participais à un tournoi de foot des villes jumelées. Je venais en tant qu'élu. Et donc, c'était le député Bernard Desrosiers, dans la circonscription de Lille, qui m'a dit, voilà, cet après-midi, il y a Pierre Mauroy qui viendra. Et donc, j'ai pu discuter une trentaine de minutes avec ce grand homme de... un Européen
dans
convaincu,
tous les sens du terme.
Un social-démocrate convaincu. Vous imaginez, à l'époque, j'avais 26 ans, 27 ans. Donc si ce grand Pierre Mauroy, le premier Premier ministre François Mitterrand, vient voir ce petit social-démocrate Dan Codello, ça reste dans la mémoire.
Reste pour vous un souvenir. Merci Dan Codello, on aurait pu passer des heures et des heures avec vous, mais on fait des grands signes.
Je prendrai positivement la prochaine invitation.
Notre roman,
mais merci pour l'invitation.
Et vous reviendrez, bien sûr, vous parler régulièrement de... le Luxembourg, d'ailleurs, un projet avec la ville des Chouradettes. On travaille en commun sur un
certain nombre. On aura encore une réunion avec votre directeur pour finaliser les sujets.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était Politiquement Vôtre avec Dan Colello, responsable de la politique internationale à Chouradettes. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RCF Lorraine. Et puis la semaine prochaine, nous aurons un autre invité, probablement aussi assez proche du Luxembourg.
Très bien, merci.
Bonne soirée.